Моя жена, эх, раз красавица, ждет меня домой, ждет печалица, ждет меня домой, ждет печалица. Я вернусь домой на закате дня.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня.
Chers auditeurs de Tranche de vie, la Russie, vous le savez, est un pays immense. 17 millions de kilomètres carrés, dont 4 en Europe, 147 millions d'habitants. Et c'est un pays qui est aujourd'hui divisé en 6 types de divisions administratives. 22 républiques, 9 krais, 46 oblasts. 3 villes fédérales, 1 oblast autonome et 4 okrugs autonomes. Parmi les républiques, il y en a 2 qui sont intéressantes, qui sont des républiques de l'Altaï. L'Altaï, c'est un massif montagneux qui est situé à la jonction du Kazakhstan et de la Mongolie, donc au sud de la Sibérie centrale. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Katharina, qui est originaire justement de cette région de l'Altaï, et qui va nous parler de ses souvenirs alors qu'elle est fixée en France maintenant depuis très exactement 10 ans. Katharina, bonjour, merci d'avoir accepté de parler à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous habitiez quand vous êtes venu en France?
Bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission. Je vivais avant de venir en France, en Sibérie du Sud-Ouest, juste au nord de la République Altaï, qui s'appelle, ma région s'appelle Altaïski Krai, le Krai d'Altaï.
Vous viviez dans une ville ou à la campagne?
Je vivais dans une assez grande ville qui était la capitale de la région. On dirait que c'est un peu comme Périgueux pour la Dordogne.
Oui. C'est une ville de quelle importance?
600 et quelques milliers d'habitants.
Ah oui, c'est quand même un petit peu plus gros quand même que Périgueux. Mais alors, ça s'appelle comment cette ville?
Barnaoul.
Ah, Barnaoul. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit en France?
J'ai suivi mes parents qui ont décidé d'émigrer ici et de me demander l'asile politique. Et comme ça, j'avais un peu plus de 20 ans et c'était un peu difficile de s'intégrer ici.
On va aborder ces questions par la suite, mais d'abord, je voudrais vous demander quels souvenirs vous avez de cette région qui a été la région de votre jeunesse, finalement, parce que vous êtes né dans cette région de l'Altaï.
Oui, je suis né à Barnaoul. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Je n'ai pas beaucoup bougé pendant ma vie. Et pour moi, c'est vraiment ma ville natale, ma région d'origine. Et les souvenirs que je porte comme ça dans mon cœur, c'est les steppes, les grands steppes immenses avec plein de fleurs, d'herbes et un grand fleuve Ob qui était juste pas très loin de notre dacha, la résidence secondaire, avec les potagers et aussi des forêts de pins où on skiait en hiver, c'était très très bien.
Alors, vous alliez passer l'été au bord de l'Ob, qui est ce grand fleuve qui réunit des rivières qui sont issues justement des massifs du massif de l'Altaï et qui ensuite se dirige vers le nord, tout à fait, pour aller se jeter dans l'océan Arctique, tout à fait au nord de la Sibérie. Mais, alors, vous avez le souvenir de grandes steppes, mais l'Altaï, c'est quand même très montagneux. Est-ce que vous alliez l'occasion d'aller dans les montagnes?
Mais chez nous, le kraï d'Altaï, il n'est pas montagneux du tout. Il est vraiment plat. Et les montagnes, la montagne, ça commence un peu vers le sud, petit à petit. Et plus on va vers le sud, plus les montagnes sont sauvages, immenses, avec des rochers, avec plein de légendes des gens qui habitent là-bas, des indigènes. Et la population aussi, elle change parce que chez nous, on est vraiment tout le monde slave, russe, russophone. Et plus on va au sud, plus c'est... On rencontre des gens vraiment d'origine, même je pense que c'était avant la venue des Slaves dans le pays. Et je pense que ça s'appelle les Altaïens, les habitants de l'Altaï, qui se rapprochent vers les Mongoliens et Kazakhstan, et les habitants de Kazakhstan.
Donc il y a des minorités importantes qui vivent dans le sud du kraï Altaï et puis aussi de la république de l'Altaï qui est voisine.
Oui, ils habitent forcément surtout généralement en république Altaï. Ils ont leur langue, ils ont leur culture, leur religion. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils ont voulu être indépendants et de vraiment se former dans une république par rapport à tout le reste de la Russie.
Et parce que vraiment, là, il y a une vie locale, mais tout à l'heure, vous parliez de russophones, en disant que tout le monde était russe, bien sûr. Il y a quand même à peu près un quart de la population qui est non russe d'origine, enfin qui fait partie de ces minorités. Est-ce que ces minorités ont conservé des langues à elles?
Oui, oui, ils ont leur propre langue, vraiment, il faut vraiment l'étudier. Et, ils ont leur prénom, leur nom, un peu autre, différent que les Russes classiques.
Est-ce qu'ils ont aussi maintiennent des traditions, par exemple, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de la religion?
Oui, pour la religion, c'est plutôt des religions païennes. Il y a beaucoup de chamans, de traditions, je ne sais pas, des coutumes bizarres que je n'ai pas trop vues dans ma vie, parce que je ne les ai pas trop touchés, croisés. Mais je sais que ce n'est pas du tout ni les orthodoxes, ni musulmans, ni bouddhistes. C'est autre chose. C'est vraiment quelque chose de rapproché à la nature. Oui, ils ont beaucoup de croyances. Par exemple, les arbres, ils mettent plein de petits rubans pour attirer les bons esprits, je pense. Et oui, il y a des chamans, il y a beaucoup des anecdotes de chamanisme ouais, que j'ai entendu un peu, mais j'ai jamais trop vu parce que je sais pas, j'étais pas très proche par rapport à ça.
Vous étiez une citadine, vous habitiez la ville et vous n'aviez pas trop dans la campagne et surtout vers le sud. Où il y avait ces populations, mais est-ce que la population a recours, par exemple, au chaman pour se guérir, par exemple, quand elle est malade, ou est-ce qu'on croit un petit peu à ça dans la population générale?
Je pense que oui, vers la République Altaï, il y a des gens qui croient et ils ont recours au chaman. Mais nous, plutôt, même au village, chez nous, on a un kraï d'Altaï, il y a plutôt des babouchkas, ils sont slaves aussi, russophones, mais ils guérissent par les petites prières, par les petites...
Et les plantes?
Oui, les plantes, oui. C'est notre, plutôt notre tradition.
Voilà, ça c'est la médecine alternative, mais de tradition plutôt russe, alors.
Oui, plutôt slave, oui. Oui. Et les Altaïens, c'est autre chose. Ils ont des... Je ne sais pas comment ça s'appelle, des boum...
Ah oui, ils ont des
Tambour.
tambours qui
Oui, des
accompagnent
tambours.
les
Oui,
rituels.
oui,
Et dans le domaine de l'habitat, alors est-ce qu'il y a, à votre connaissance, puisque c'est une région que vous n'avez pas beaucoup fréquentée, la région des montagnes de l'Altaï, il y a un habitat traditionnel particulier qui est, si on considère la proximité du Kazakhstan, de la Mongolie?
Oui, j'ai visité des... c'était un peu touristique, c'était des yurts qui étaient vraiment typiques et très, comment dire... comment tu peux dire?
Des yourtes qui
Ouais.
ressemblent aux yourtes mongoles?
Je pense,
Oui,
oui.
en couverture, en feutre, en quoi? En cuir?
Cuir, je pense que c'est le cuir, du cuir. Et au milieu, il y a le feu, la place pour le feu, qui monte, la fumée monte vers le plafond et il y a un trou. Et je ne sais pas, oui, je me demandais toujours, je me posais toujours la question, comment on fait quand il pleut? Voilà,
Donc,
et oui.
ça c'est quand même des choses qui montrent qu'il y a une proximité certainement culturelle avec la Mongolie, par exemple, et puis peut-être avec le Kazakhstan,
Ah oui, tout
parce
à
que
fait, oui.
tous ces minorités vivent surtout de l'élevage.
Oui, je pense, oui. Mais maintenant, ça commence, je pense qu'après notre départ, il y avait un développement de tourisme important, surtout en Altaï, parce que les premières petites montagnes qui ne sont pas encore très, très sauvages et très grandes, elles sont très jolies, on l'appelle la Suisse russe.
Ah oui.
Et c'est tellement joli qu'il y a beaucoup de changements de paysage, il y a plein de petits lacs tout bleus ou verts. Et on a fait pas mal de randonnées comme ça avec mes parents, avec de la famille. Et je pense que maintenant, il y a plein d'étrangers. Même quand j'étais encore adolescente, il y avait déjà des étrangers qui venaient de l'Amérique, de l'Europe. Et là, je suis sûre que ça a vraiment développé. Et c'est parti, maintenant, ils gagnent beaucoup plus de tourisme
Est-ce qu'il
ici.
y a des populations russes, enfin de la région de l'ouest de l'Ural, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France la Russie d'Europe, qui viennent pour les sports d'hiver, par exemple
Oui, je pense. Après, je peux pas dire comme ça, parce que
Est-ce
c'était
que
un peu
vous
long.
êtes restée alors une fille de l'Altaï, hein, vous êtes allée dans peu d'endroits en dehors de cette région Moscou, Saint-Pétersbourg ou bien le reste de la Sibérie. Vous n'avez pas beaucoup voyagé.
Non, en Russie, j'ai pas beaucoup voyagé. Je sais pas, c'est parce que c'est un peu loin, toujours très loin, très loin. L'avion, ça coûte cher. Le train, c'est très, très, très long. Et quand on est parti, on a pris le train. On a passé 3 nuits dans le train. On a traversé tout l'Ural, Kazan, où il y a beaucoup de musulmans. Moscou, on est arrivé à Moscou. On est resté juste même quelques heures là-bas à Moscou, on visitait un peu la place rouge et on était parti après plus
Et
on est
là,
plus
c'était la
loin.
première fois que vous alliez à Moscou.
On m'a
La
amené à Moscou quand
première
j'étais
et
très
la seule. Ah
petite.
oui.
Oui, quand j'étais très petite, on m'a amené à Moscou, je ne sais pas, j'avais 2 ou 3 ans et ma mère m'a raconté que j'ai vu un garçon noir. Et j'ai eu très très peur, j'ai pleuré, j'ai dit maman, j'ai peur, j'ai peur. Elle m'a pris dans les bras et comme ça elle m'a consolée parce que j'avais pas d'habitude de voir des noirs. Ouais, et en Sibérie, je pense que j'en ai vu une fois dans le bus, mais ça m'a fait très bizarre parce que on a que des blancs.
Quelque chose de
Ouais.
très rare, oui. Même
Oui.
si je pense dans le sud, quand même, il doit y avoir des populations qui ont des traits qui s'assimilent un petit peu aux Asiatiques.
Oui, il y a beaucoup de Chinois aussi qui viennent chez nous pour faire du commerce. Et on est un peu habitué à ça, oui. Mais tout ce qui est vraiment de les gens d'origine maghreb, arabe, autres,
Oui.
pour nous, c'est tellement exotique.
Bien sûr, même s'il y a une minorité, il y a une minorité de musulmans, hein, puisqu'il y a dans les religions, il y a un petit pourcentage de musulmans. Alors, est-ce que ce sont des gens qui viennent du Xinjiang, ça, c'est des gens des Chinois, ou vous ne savez pas?
musulmans. Moi, j'en ai pas même trop rencontré parce que il y a tellement peu de musulmans. Je pense que j'ai vu un peu de bouddhistes vers le sud, ouais. Oui. Avec, je me rappelle, oui, comme ça, une image tout de suite, un bouddhiste avec sa robe bordeaux. Et il y a toujours un taureau, un yak. Comment ça s'appelle?
Ah oui. Alors ça, c'était des lamaïstes plutôt tibétains, d'origine tibétaine.
Oui.
Ah oui, très bien. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on mange dans cette région? Quelles sont les spécialités culinaires?
Ben, quand en hiver, quand il fait super froid...
Qu'est-ce qui vous manque?
Et il me manque rien parce que ma maman, elle me prépare plein de... Toujours, elle me prépare plein de petits plats russes. Mais le climat, il te pousse à manger bien calorique et surtout que ça soit chaud, calorique, que ça soit de la viande. Et on mange beaucoup, beaucoup de pommes de terre sous toutes les sauces. À toutes les sauces, oui. Et on mange des raviolis russes qui sont comme des raviolis, mais avec de la viande hachée dedans. Pelimeni, ça s'appelle, oui. Et aussi, on mange un peu les raviolis de Kazakhstan, Mongolie, ou plutôt Mongolie, ça s'appelle manti. Et c'est un peu la même chose, mais c'est cuit à la vapeur.
Ah oui?
Oui, c'est très bon aussi. Mais moi, je pense que j'ai tout de suite faim.
Et puis, est-ce qu'en dehors des pommes de terre, il y a d'autres légumes Je ne sais pas, le chou rouge, les betteraves
Beaucoup de betteraves, de tout ce qui est les racines qu'on peut manger, les betteraves, ouais. Des carottes. Mais aussi, la traditionnelle, c'est le chou salé qu'on fait beaucoup en automne.
Oui, oui.
Et on le sale, je pense que même sans vinaigre, on peut le faire. Et un peu de carottes. Et comme ça, tu ouvres ta conserve en hiver, tu le manges. On fait plein de conserves aussi. C'est oui. toujours très, très bon.
Toujours en prévision du long hiver russe, très rude, et dans lequel on est obligé d'avoir des provisions.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on boit?
La vodka, bien sûr. Bien sûr.
Mais toi aussi, tu t'es mise à la vodka un petit peu, ou non, à la bière ou
Une fois, je voulais me saouler parce que je n'étais pas bien. J'ai bu un demi-verre de vodka, ça ne m'a rien fait. Moi, je te dis, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Voilà. Mais je n'étais jamais attirée par la vodka. Parce qu'en plus, on a vu tellement de misère dans les familles autour.
Causée par la vodka.
Que ça ne donne pas envie du tout. Oui.
Katharina, tu es en France depuis 10 ans, tu travailles, tu as poursuivi tes études avec succès. Est-ce que maintenant, tu te plais à Périgueux?
Ah oui, beaucoup. Oui. Déjà, dès le début, comme j'étais avec mes parents, je ne ressentais pas trop de manque. De la Russie, surtout qu'on l'a quittée quand même pour des raisons spécifiques. Et j'étais toujours très très bien à côté de mes parents, avec mon frère, comme dans une famille, dans la famille. Et aussi, je pense que le climat quand même, il est beaucoup plus favorable pour moi personnellement, parce que le froid, maintenant, je ne sais pas comment je pourrais le supporter.
Ah, tu parles vraiment du climat au sens propre, pas le climat, pas l'ambiance.
Déjà, oui, le climat qui est beaucoup plus agréable pour moi, que je me suis fait, parce qu'au début, c'était un peu trop humide, je n'étais pas habituée aussi. Et maintenant, ça va bien. Après, j'aime beaucoup aussi, comme je suis un peu... j'aime beaucoup le plaisir visuel des belles choses, des belles constructions, par exemple.
Tu veux dire des vestiges historiques, des églises, des châteaux, des...
Oui, des villages authentiques. Nous, à Barnaul, on n'a pas du tout de cette histoire de la ville. C'est très récent, c'est assez gris, communiste, de l'époque communiste, et plutôt moderne. Et moi, T'es tellement fascinée de voir tout ce qui est historique ici, toutes les beaux monuments, des petites maisons en pierre. Et je ne me lasse pas de regarder. Même ça fait 10 ans que je suis là et chaque fois, je m'émerveille tous les jours ici par rapport à ça.
Tu nous expliques ça dans un français qui est quasi parfait. Tu as mis combien de temps à apprendre le français? Bon, tous les Français savent que les Slaves ont des facilités extraordinaires pour apprendre les langues étrangères. Toi, tu as mis combien de temps pour parler français?
Pour parler, bah, je pense que j'ai mal démarré en apprenant le français parce que j'ai commencé un peu lire, écrire et ne pas parler. Et on arrive ici, j'ai commencé juste peut-être 1 ou 2 mois de lecture juste avant d'arriver en France et après j'ai eu très très du mal à parler vraiment avec les gens. Je pouvais comprendre les cours. Je pouvais les écrire même, au moins 70% comme ça de cours, je pouvais l'écrire moi-même en écoutant. Mais après, j'arrivais pas à parler avec les
Oui,
filles.
tu avais du mal à te jeter à l'eau pour engager une conversation, maintenir une conversation, mais ça, c'est normal. C'est toujours le plus difficile. La communication. Et petit à petit, alors, en allant acheter ton pain, tu as commencé à parler avec les commerçants, avec tes collègues d'études. Et voilà, c'est venu tout seul.
Mais c'est venu, oui, c'est venu peut-être 1 an plus tard que j'ai commencé petit à petit de parler, de tenir la conversation et vraiment que ça soit vraiment, vraiment confortable pour moi. Ça a pris quand même des années parce que j'étais beaucoup dans ma famille, on parlait beaucoup russe, d'un côté c'est bien. Et pour moi c'était confortable, mais après. Ça m'a freiné pas mal. Ça m'a pas mal freiné. Si j'étais toute seule, toujours parmi les Français, oui, bien sûr que j'aurais progressé beaucoup plus vite. Et par contre, mon frère, je suis très contente qu'on a pu parler russe avec lui parce qu'il est arrivé à 8 ans. Là, il a 18 ans. Et il est bilingue, sauf qu'il n'arrive pas trop à écrire, à lire. Il lit un peu les SMS en russe,
Il
mais
s'est mis à
écrire.
8 ans, c'était déjà un petit peu tard, mais donc voilà.
Oui. Mais oui, il comprend bien, il peut parler russe, il n'y a pas d'accent, voilà. Je suis très
Donc
contente qu'il apprenne de ça.
vous maintenez quand même dans votre famille l'usage de la langue russe régulièrement.
Mais c'est pas grave, c'est juste, c'est naturel, parce qu'on peut pas changer comme ça,
Oui,
parce qu'on
oui.
est arrivé assez tard pour changer.
Et
Hein.
les parents, c'est sans doute ceux qui ont le moins acquis de français, j'imagine.
Surtout mon père, oui, mon père, ma mère, il essaie de. Oui, il parle. Il a un peu de. Peut-être le grammaire qui est un peu difficile pour elle, mais il se débrouille très bien aussi.
Est-ce que tu peux nous dire maintenant, puisqu'on parle toujours de ça, dans cette émission, quelles sont tes autres passions? Parce que j'imagine que tu aimes bien ton travail, mais qu'il y a quand même des choses après le travail qui sont intéressantes à faire. Et je sais que tu as beaucoup d'autres passions. Quelles sont-elles?
Non, non, j'aime que les chiffres. Alors, d'autres passions. J'ai beaucoup aimé faire de la musculation. Pendant 3 ans, 3 ou 4 ans, j'en faisais pas mal. Ça m'a.
Comme Monsieur Poutine, alors.
Peut-être. Peut-être c'est lui qui a pris mon exemple. Ouais. Et oui, ça aère bien la tête, ça muscle, ça fait du bien. Après,
Donc tu es une sportive.
Oui, et avant ça aussi, je me suis initiée un peu à la photographie avec toute la beauté que je vois autour de moi, la nature et la culture. Et après, j'ai commencé à chanter parce qu'en Russie, j'ai fait une formation de 4 ans pour devenir chef de chœur. J'ai eu mon diplôme, mais je sais pas, j'ai eu une rupture de chant pendant 10 ans et j'ai recommencé l'année dernière. Le chant lyrique, tout s'est trouvé tout seul. Dès que j'ai pensé, voilà, j'ai eu plein de
Alors, tu
propositions.
chantes, c'est du chant lyrique en solo, mais tu fais partie d'une chorale.
Les deux, oui. Je prends les cours de chant pour bien placer ma voix et aussi je chante dans une chorale. Et c'est toujours la même prof qui fait les deux.
Ton idée de devenir chef de chœur, elle est toujours présente, non? Tu as quelque chose que tu as abandonné?
Oui, je pense que plutôt je préfère de chanter que de diriger les gens, de les rassembler, les organiser. C'est tellement un peu fatigant pour moi. Peut-être je ne me sens pas très organisatrice pour l'instant. Et peut-être jamais, mais en tout cas, ouais, chanter comme ça, de partager avec les gens de la musique, de belles musiques classiques, baroques, c'est très beau, je trouve. C'est vraiment ça fait des fourmis sur la peau.
Est-ce que tu as d'autres passe-temps qui peuvent être des patients?
Comme ça.
Ce qu'on appelle en français des violons d'Ingres, c'est-à-dire qu'on a une petite passion cachée.
Oui.
Voilà.
Je ne sais pas, oui, à part la photographie, comme ça, je ne pense pas à la photographie. Ouais, j'aime beaucoup le yoga, faire du yoga, ouais, mais c'est plus pour me sentir bien.
Bref, tu ne t'ennuies pas?
Non, jamais, je manque de temps.
Alors, une question peut-être un peu délicate maintenant, est-ce que tu as la nostalgie de la Russie? Est-ce que quelquefois tu les grandes steppes, les grandes forêts,
le boulot,
les grandes forêts de sapins, la neige, les bords de l'Obe te manquent et tu aurais envie de les revoir, ça peut quelquefois être des paysages un peu monotones, mais ils appartiennent à ta jeunesse et donc est-ce que quelquefois tu as envie de revoir tout ça?
Au début, ici, ce qui me manquait vraiment, c'est la neige à Noël et surtout à Nouvel An, parce que Nouvel An, on le fête vraiment beaucoup plus que Noël. Ça m'a manqué énormément, je n'arrivais pas à voir la grisaille. Je voulais vraiment avoir des toboggans, des bonhommes de neige partout. Je suis habituée et petit à petit, bon, ça m'a passé. Et là, depuis quelques temps, quand je me promène un peu dans la campagne, je me rappelle de plus en plus les steppes qui sont fleuries, il y a des herbes partout et en plus ça sent tellement bon, il y a plein d'abeilles et on ramassait plein d'herbes avec maman pour notre santé, comme un peu en guise de médicaments.
Des remèdes de grand-mère.
Oui, remèdes de grand-mère, oui, c'est ça. Ouais. Et je me rappelle que moi, maintenant ça me revient de plus en plus. Tous les parfums et les aromas de ces herbes, de cette plante. Là, j'ai regardé, je me rappelle, il y a de la marjolaine sauvage. Il y avait d'autres, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il y a tellement de plantes. Et c'était tellement riche et, comment dire, du bio, que du bio. Oui.
Tu as le souvenir d'une nature qui était beaucoup plus sauvage et moins domestiquée qu'elle l'est en Europe, en France en particulier?
Ah oui. Et si, heureusement que par rapport, par exemple, aux autres pays qui sont plus petits encore, ici, au moins, il y a plein de coins sauvages aussi. Ça fait plaisir.
Nous allons bientôt nous quitter. Est-ce que tu pourrais te souvenir d'une petite chanson populaire et nous la chanter comme ça, même si elle est très courte? Ça nous ferait vraiment plaisir.
Par exemple, moi, je peux la même traduire un peu en français. Ça s'appelle de gel, du gel. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. И je peux la chanter même en français. Oh, le gel, ne me gèle pas, ne me gèle pas. Ni mon cheval.
Merci beaucoup, Katharina, bravo, et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions.
Merci à vous, Jean-François, c'est avec plaisir.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.